OK, on va commencer notre 16e sermon sur la souveraineté de Dieu. Il va nous en rester encore un après. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, qu'on va regarder la souveraineté de Dieu et la persévérance et la préservation des élus. Alors, c'est une doctrine qu'on se doit de considérer comme des doctrines jumelles. La préservation, c'est la part de Dieu dans notre salut. Autrement dit, Dieu nous accorde le salut par son Saint-Esprit, mais il nous préserve tout au long de notre vie chrétienne dans le but de qu'on se rende au bout. Quand Dieu commence quelque chose, il le termine. Mais aussi, ce qu'on appelle la persévérance des saints, c'est que nous, Dieu nous a confié aussi des responsabilités. Comment agir face à sa parole, comment obéir, comment se sanctifier, comment augmenter notre crainte de Dieu, etc. Les deux vont ensemble. C'est deux doctrines jumelles, on ne peut pas les séparer. Dieu, oui, il nous préserve, mais en même temps, il nous demande de faire des choses pour, quand ça dit dans les Écritures, travailler votre salut avec crainte et tremblement. Donc, travailler, ça veut dire qu'on a quelque chose à faire. Alors, quelque part, on va regarder les deux doctrines, sont jumelles, mais sont importantes, parce que c'est important de comprendre que si on a été véritablement sauvé, je sais qu'aux États-Unis, actuellement, il y a beaucoup de controverses parce qu'il y en a qui n'aiment pas la doctrine de always save, once saved, always saved. Autrement dit, en anglais, c'est si tu étais sauvé, tu vas être sauvé tout le temps. Pour la simple raison, pourquoi ils n'aiment pas ça? Parce qu'ils disent que c'est une doctrine qui met l'accent juste sur la part de Dieu. Autrement dit, c'est comme s'ils ignoraient que les Écritures, oui, Dieu va te préserver, mais oui, Dieu te demande aussi en même temps. Tu sais, c'est comme tu ne peux pas dire, Dieu m'a sauvé, puis maintenant je peux vivre à ma guise. Ah, il va me préserver jusqu'à la fin. Ça ne marche pas de même. Il va te préserver, mais il te demande, toi, d'obéir et de faire certaines choses pour travailler à ton salut avec crainte et tremblement. Les deux vont ensemble. Tu ne peux pas, parce que, pourquoi une controverse? Parce que ceux qui disent « one save, always save », c'est qu'ils ont l'air à vouloir dire, à cause du fait que je crois, je vais toujours être sauvé, peu importe ce que je fais. Alors, il y en a plusieurs qui disent, oh, c'est dangereux de dire ça à des gens, parce qu'après qu'ils se sont fait dire, une fois, tu es sauvé, ils s'imaginent que ça les autorise à amener des vies de dissolution. Ça ne marche pas de même. Alors, c'est pour ça que c'est important, je vous dis qu'il faut mettre les deux doctrines jumelles qui vont l'une avec l'autre. Il faut vraiment garder ça en l'esprit tout le temps. Si Dieu vous a vraiment sauvé, si le Saint-Esprit vous a vraiment régénéré et vous a donné la nouvelle naissance, il va vous rendre jusqu'au bout. Mais ça n'exclut pas l'idée que vous devez participer à votre salut, à votre sanctification. Alors, c'est ça qui est important. Alors, à retenir, c'est la préservation, c'est la part de Dieu dans notre salut, puis la persévérance, c'est la part de l'homme, la part de l'élu, du chrétien. C'est important de réaliser cela. On va aller lire un verset, un passage des Écritures qui nous parle de ça, dans 2 Pierre, chapitre 1, les versets 3 à 8. J'aime beaucoup ce passage-là en particulier, parce que justement, ça nous rappelle ce que je viens de vous dire. Ça dit, « Puisque sa divine puissance nous a donné tout ce qui appartient à la vie et à la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu, par lesquelles nous sont données les grandes et précieuses promesses, afin que par elles, vous soyez faits participants de la nature divine, étant échappés de la corruption qui règne dans le monde par la convoitise, vous donc aussi, y donnant tous vos soins. » Regardez ici le verset 5. « Y donnant tous vos soins », ça veut dire faire tous vos efforts. Et là, il nous dit d'ajouter à ça, ajouter à ça. Là, ça dit... Vous donc, y donnant tous vos soins ou tous vos efforts. Dans le grec, là, le mot grec est utilisé, c'est un mot très fort. C'est un mot qui veut donner l'idée suivante. Un athlète qui poursuit quelque chose, un but, soit dans la natation, ou soit dans la course, soit dans n'importe quoi, les efforts qu'il met là, pour arriver à son but, là, c'est extraordinairement puissant. C'est tous les jours, ils se privent dans le but de gagner quelque chose de terrestre et de temps qui ne dure pas longtemps. Mais ici, le Seigneur nous dit de travailler avec cet effort-là, mais pour ce qu'il nous dit ici. Il donne à tous vos soins. Ajoutez la vertu à votre foi. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, et à l'amour fraternel, la charité. Verset 8, « Car si ces choses sont en vous et y abondent, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles en la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est important parce qu'il nous dit que si ces choses abondent, alors il dit ajoutez. Autrement dit, on n'est jamais fini, là. On n'est jamais rendu au bout. Il n'y a pas un chrétien, même ça fait 30 ans, 35 ans qu'il est chrétien, que lui a atteint le sommet et il dit « Bon, moi, je suis correct. » Ça ne marche pas de même. On a tous, il y a la place pour le progrès dans la vie de tout chrétien. En ajoutant ces choses-là, ça ne finit pas. Autrement dit, on n'aura jamais fini. C'est ce qui nous montre l'aspect de la persévérance. Il faut travailler à notre salut avec crainte et tremblement, en obéissant à ce que Dieu nous demande dans les Saintes Écritures. Maintenant, la préservation. Il y a des versets qui nous parlent de la persévérance, juste pour présenter, cette semaine, on va probablement faire juste la préservation, mais de manière à voir que les deux doctrines sont vraiment clairement établies dans les Écritures, on va aller regarder 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 5, qui affirme que c'est Dieu qui nous garde. Alors, ça dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, par sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour avoir une espérance vive par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, d'obtenir l'héritage incorruptible qui ne peut souiller ni flétrir, conservé dans les cieux pour nous, verset 5, qui sommes gardés par la puissance de Dieu, par la foi, afin que nous obtenions le salut qui est prêt d'être révélé au dernier temps, qui sommes gardés par la puissance de Dieu. » Alors, c'est un verset qui parle, il y en a beaucoup, là, le verset qui parle de que Dieu nous préserve à partir du début de notre salut jusqu'à la fin. Et à quelque part, celui-là, je le trouve particulièrement fort, qui sommes gardés par la puissance de Dieu. C'est Dieu qui nous garde, c'est Dieu qui nous sauve, et c'est lui qui nous garde. Parce qu'en chemin, si c'était juste de nous, là, moi, ça fait longtemps que je suis certain que j'aurais tombé, j'aurais abandonné. Dieu fait en sorte qu'il arrive toutes sortes de choses, que ça nous encourage, puis on persévère jusqu'à la fin. Alors, ces deux doctrines-là, c'est important de réaliser qu'elles sont jumelles et indissociables. On ne peut pas les enlever, parce que si on met trop l'accent juste sur la préservation de Dieu, ça peut nous emmener à amener des vies de dissolution. Si on met trop l'accent juste sur nos efforts, on est en train de faire un salut par les œuvres. Alors, il faut vraiment garder l'équilibre entre les deux. Alors, la préservation, Dieu nous garde, et la persévérance, nous devons nous garder. Vraiment, il est essentiel de conserver l'équilibre dans notre compréhension et l'application de ces deux doctrines-là. Si on met une trop grande emphase sur la doctrine de la préservation, ça peut nous mener, comme je viens de le dire, à une vie de dissolution et de dérèglement. Autrement dit, on dit « Ah, ben là, Dieu m'a sauvé, ben là, je vais faire n'importe quoi, il va me garder jusqu'au bout. » Et maintenant, une sous-emphase de la doctrine de la persévérance, l'autre doctrine qui est une jumelle, peut conduire à une appréciation injuste et fausse de la responsabilité des élus dans leur sanctification et dans leur marche chrétienne. Les deux vont ensemble, ne peuvent pas se dissocier. Si vous dissociez, automatiquement, ça amène à un déséquilibre dans la doctrine et c'est ça a l'air de rien, là. Mais si quelqu'un met trop l'emphase sur un ou passer sur l'autre, ça crée un déséquilibre et ça peut amener, ça a des conséquences pratico-pratiques beaucoup plus grandes qu'on pense. Alors, c'est l'importance de garder l'équilibre. Alors, aujourd'hui, on va surtout regarder la question que Dieu nous préserve. Et ça, c'est une doctrine que moi, personnellement, je trouve très rassurante. Dieu, le salut vient de l'Éternel, il nous prend au début, puis il va nous rendre à la fin. Mais il ne faut pas oublier que ça n'exclut pas notre responsabilité. Ça, c'est garder cette idée-là à l'esprit, et à ce moment-là, on comprend bien le salut, et on ne fait pas un déséquilibre. Alors, bien entendu, on le sait, les élus reçoivent la vie éternelle au moment qu'ils croient. Au moment où le Saint-Esprit te régénère, tu as la vie éternelle par le Seigneur. Alors, on est gardé, comme on l'a vu tout à l'heure dans 2 Pierre, par la puissance de Dieu. Et les Écritures nous disent que rien ne peut nous séparer de son amour parce qu'on a été scellés par le Saint-Esprit. On est gardé par Dieu, mais en autant qu'on est vraiment sauvé. Si on n'est pas vraiment sauvé, c'est sûr que des personnes... Moi, l'apostasie, beaucoup de personnes, au cours de ma vie, m'ont posé la question, « Ben ouais, mais tu dis que... le... » Moi, je dis que le salut ne se perd pas. Si tu l'as eu, c'est ça l'affaire. Les apostats, c'est souvent des personnes qui ont professé être chrétiens, mais qui, en cours de route, abandonnent pour des raisons qui ne sont pas bibliques. Alors, ils abandonnent, et ça démontre peut-être tout simplement qu'ils n'ont jamais reçu la grâce de Dieu. Personnellement, je ne crois pas que le salut se perd, et je pense que je peux facilement le démontrer avec les Écritures. Mais en autant que la personne l'a vraiment reçu. Alors, Ésaïe 43, versets 1 à 4. « Et maintenant, ainsi dit l'Éternel qui t'est créé, ô Jacob, et qui t'est formé, ô Israël. Ne crains point, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Quand tu passeras dans les eaux, je serai avec toi. Et dans les fleuves, ils ne te submergeront point. Car tu marcheras dans le feu, tu n'en seras pas brûlé, et la flamme ne te consumera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte pour ta rançon, Cush et Séba à ta place. Parce que tu es précieux à mes yeux, que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des nations en échange de ta vie. » C'est vraiment des versets qui sont d'une grande profondeur. Jérémie 32, les versets 38 à 40, vont venir nous parler que le Seigneur a fait une alliance éternelle. Une alliance éternelle, quand Dieu prend part à une alliance, c'est une entente, puis c'est éternel, puis c'est divine, il n'y a rien qui peut nous faire déroger de ça. Jérémie 32, versets 38 à 40, « Et ils me seront pour peuple, et je leur serai pour Dieu, et je leur donnerai un même cœur et un même chemin, afin qu'ils me craignent à toujours pour leur bien et le bien de leurs enfants après eux. » C'est important de réaliser ça aussi. Hein? Pour leur bien, il parle du peuple de Dieu, et le bien de leurs enfants après eux. Donc, comme autrement dit, quand quelqu'un est sauvé, souvent ça a un impact sur sa famille immédiate. Et verset 40, « Et je traiterai avec eux une alliance éternelle, savoir que je ne me retirerai point d'eux pour leur faire du bien, et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne se retirent point de moi. » Il dit qu'il va nous donner tout ce qu'il faut pour qu'on ne se retire pas et qu'on s'éloigne du mal. Matthieu 18, je vais vous donner beaucoup de versets parce que c'est important, la doctrine de la préservation, de voir comment Dieu prend soin de ceux à qui il a donné la vie éternelle. Matthieu 18, les versets 12 à 14. « Que vous en semble, si un homme a 100 brebis et qu'il y en ait une qui se soit égarée, ne laisse-t-il pas les 99 autres pour s'en aller dans les montagnes chercher celle qui s'est égarée? Et s'il arrive qu'il la trouve, en vérité, je vous dis qu'il y a plus de joie que des 99 qui ne se sont point égarés. » Verset 14, très important pour réaliser. « Ainsi, la volonté de votre Père qui est aux cieux n'est pas qu'un seul de ses petits périsse. » La volonté du Père, c'est quand il a donné le salut à quelqu'un, il va permettre qu'il s'en rende jusqu'au bout. Jean, chapitre 3, verset 36. Ça, c'est un verset intéressant quand on discute de théologie avec des gens, disons, dans la rue. Ils vont dire, tu dis que tu es sauvé, là, ils vont te demander, ça veut dire quoi, être sauvé? Ça veut dire que tes péchés sont pardonnés, ça veut dire que tu es sûr que tu vas aller au ciel, tu l'as déjà, la vie éternelle. Parce qu'il y en a qui vont te répondre, ben non, on ne peut pas savoir ça de suite, on va le savoir juste quand on va traverser. Est-ce que c'est ça que les Écritures enseignent? Mais non. Jean 3, 36. « Qui croit au Fils a la vie éternelle, pas aura. Ah! Qui croit au Fils a la vie éternelle, mais qui désobéit au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Qui croit au Fils a la vie éternelle. Alors, c'est des versets puissants pour nous démontrer ces choses-là. Jean 5, verset 24. Il est beau... des beaux passages à apprendre par cœur. Vous avez l'intention d'apprendre les versets par cœur, là? Jean 3, 36, Jean 5, 24, ça en est des bons. En vérité, je vous dis que celui qui entend ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne sera point exposé à la condamnation, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 6, versets 35 à 40 et le verset 47. Et Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura point de faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous ai dit que vous m'avez vu, cependant vous ne croyez point. Tout ce que mon Père me donne viendra à moi. » Et je ne mettrai point dehors celui qui viendra à moi. Alors vraiment, la doctrine que Dieu, de toute éternité, accorde le salut déjà dans l'éternité. Et c'est ce qu'il dit, tout ce que mon Père me donne, les êtres humains que le Père a donné au Fils, il dit, viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui viendra à moi. Parce qu'il dit, verset 38, car je suis descendu du ciel, non point pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et c'est ici, la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Quel beau verset! Et c'est ici la volonté, verset 40, de celui qui m'a envoyé, que quiconque contemple le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. C'est pourquoi je le ressusciterai au dernier jour. Verset 47, en vérité, je vous dis, qui croit en moi a la vie éternelle. Quel beau verset. Des versets que quand on s'arrête à y penser, Dieu est en train de nous dire qu'on a la vie éternelle, on est déjà dans notre vie éternelle. Là, là. Pas que juste quand on va mourir, on l'a déjà. On a la vie éternelle à cause du fait qu'on place notre foi dans la personne et dans l'œuvre de Jésus-Christ. Jean 10, versets 27 à 30. C'est intéressant aussi ce passage-là. « Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Et moi, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir des mains de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Je me souviens d'avoir entendu des fois un chrétien que j'ai connu il y a quelques années. Et dans l'église dans laquelle il allait, le prédicateur, il prêchait que le salut se perdait. Puis lui, ça le troublait énormément. Énormément, pas qu'un peu, ça troublait énormément, son cœur était tout à l'envers à cause de ça. Et il dit à un moment donné, je me souviens ce qu'il m'a dit, c'est quand j'ai lu Jean 10, verset 28, « Et moi je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Il dit, ça a été fini. Son inquiétude est partie et il a quitté cette église-là. Je vous dis ça de même parce que des fois, la question de savoir que Dieu va nous garder jusqu'au bout, c'est très important. Sinon, on est dans un état où on pense que c'est notre marche chrétienne qui va faire en sorte qu'on va aller au ciel ou non. Quoique ça n'exclut pas complètement un peu l'idée, un petit peu aussi. Mais c'est d'abord parce que Dieu t'a donné la vie éternelle, il t'a donné le Saint-Esprit, il t'a fait comprendre qui était la personne de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait pour toi. Et il dit qu'il va te garder. Mais la semaine prochaine, on mettra plus l'accent sur la persévérance, notre responsabilité. Dieu nous garde, mais il faut nous garder nous-mêmes aussi. Jean 17, versets 11 et 12 et verset 15. Jean 17, c'est important, c'est la prière sacerdotale. C'est un beau passage où le Seigneur, il parle au Père, puis il lui dit des choses importantes qu'on a besoin de savoir. Versets 11, 12, on va commencer par 11 et 12. « Et maintenant, je ne suis plus au monde, mais ceux-ci sont au monde, et moi, je vais à toi, Père Saint. Garde-les en ton nom, ceux, dis-je, que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Quand j'étais avec eux au monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et pas un d'eux n'est péri, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. Verset 15. Je ne te prie point que tu les ôtes du monde, mais de les préserver du mal. Romains chapitre 5, versets 8 à 10. Mais Dieu signale son amour envers nous, en ce que lorsque nous n'étions que pécheurs, Christ est mort pour nous. Beaucoup plus tôt donc, étant maintenant justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la colère par lui. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, beaucoup plus étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et Romains 8, le verset 1, 29 et 30, et 35 à 39, c'est un des beaux passages des Écritures qui nous parle de la préservation de Dieu dans notre salut. Verset 1, on l'a tous déjà entendu maintes et maintes fois. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, lesquels ne marchent point selon la chair, mais selon l'Esprit. Autrement dit, est en train de nous dire qu'il n'y a pas de condamnation pour nos péchés passés à cause du fait que c'est Jésus-Christ qui les a payés. Et les versets 29, aller jusqu'à 30, on va les lire jusqu'à de 20, 29 et 30, après ça 35 à 39. Car ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ça ici, là, on peut l'avoir lu maintes et maintes fois, mais je ne suis pas sûr qu'on l'a vraiment compris. C'est en anglais, il l'appelle « the golden chain of salvation ». Il y a cinq choses qui sont mentionnées dans les versets 29 et 30. On parle de la préconnaissance de Dieu. Donc ça, c'est l'aspect que Dieu t'a connu avant même que tu sois né. Il t'a connu et il a pris sa décision concernant ta destinée éternelle en te plaçant en Jésus-Christ dès l'éternité. C'est ça que ça dit. Car ceux qu'il a préconnus, je veux dire pré-aimés, si on voudrait le traduire là, avec tout le sens, ça, c'est vraiment pré-aimé. Il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Il nous a pré-aimés. Quand Jésus est venu, il a payé et il a été prédestiné. Puis nous sommes prédestinés à devenir conformes à l'image de Christ. Qui d'entre nous comprend ce que ça veut dire, ça? Être conforme à l'image de Jésus-Christ. Prenez vos quatre évangiles, lisez-les 200 fois, 1000 fois. Vous allez commencer à comprendre un peu qui Christ est. Toutes les qualités de Christ. Il nous a sauvés, ça dit, il nous a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier d'entre plusieurs frères. Conformes à l'image de Christ, ça veut dire qu'on ne peut pas être né de nouveau et continuer à mener une vie de désordre et de dissolution. Sinon, on est en train de faire mentir Dieu qui dit qu'il nous a appelés dans le but de nous rendre semblables à l'image de son Fils. Et la troisième, parce qu'on a parlé de cinq anneaux d'or, on les appelle « the golden chain of salvation », la troisième anneau, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et remarquez une chose, parce que souvent on ne porte pas attention à ça quand on lit. Les verbes sont au passé. Il les a aussi appelés. Ça veut dire qu'éventuellement, au cours de ta vie, moi, dans mon cas, ça a été à 33 ans. Le Seigneur est venu me chercher à 33 ans. Ça veut dire qu'il m'a laissé 33 ans dans ma misère, et dans mes péchés, et dans ma vie de dissolution. Mais à 33 ans, il m'a accordé la grâce. Parce qu'il m'a appelé par son Saint-Esprit. On l'a vu dans les leçons précédentes. L'appel, c'est l'appel intérieur reçu par le Saint-Esprit. Comment ça se fait que, je ne sais pas moi, de 16 ans à aller jusqu'à 33 ans, je pouvais avoir entendu l'Évangile à maintes et maintes reprises, je pouvais avoir lu des traités à maintes et maintes reprises, ça me passait six pieds par-dessus la tête, puis je ne comprenais rien. À 33 ans, là, quelqu'un me donne un petit Nouveau Testament, me met à lire le Nouveau Testament. Et comment ça se fait que là, je le comprenais? C'est parce que c'est Dieu qui m'avait donné la vie.
m'avait donné la vie spirituelle par son Saint-Esprit, je découvrais que j'étais un pécheur perdu, condamné. Et par son Saint-Esprit, je découvrais que la seule solution possible se trouvait dans la personne et dans l'œuvre de son Fils Jésus-Christ. Il les a aussi appelés, et ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés. Depuis, je ne sais pas combien de fois je vous l'ai dit, mais vous allez m'entendre le dire jusqu'à la fin de mes jours. La justification, Dieu vous voit, chaque chrétien, comme étant juste. Pourquoi Dieu peut dire que moi je suis juste? Pourtant, j'ai mené une vie de péché, même encore, après mon salut, j'en fais encore, malheureusement. Pourquoi il dit « je suis juste » ? Parce que mes péchés ont été payés par une autre personne qui avait la possibilité de recevoir mon châtiment sur lui, parce qu'il avait à la fois une nature humaine et à la fois une nature divine. Et dans sa nature humaine, il n'avait jamais péché. Donc, ce n'était pas ses péchés que Dieu jugeait. Il n'avait pas de péché, Jésus. C'était les miens. C'était les vôtres. C'était tous les élus de tous les temps sur lesquels Dieu venait porter sa colère sur lui. Et la quantité de souffrance que le Seigneur a juste dans ça, là, c'est inimaginable. Et la question de justifier, on a dit tantôt, c'est même s'il avait payé tous les péchés, il a fait subir à Jésus-Christ l'équivalent de la douleur que j'aurais dû prendre en enfer à ma place, j'aurais pas pu rentrer au ciel. Parce que ça prenait aussi la parfaite obéissance à la loi. Et la parfaite obéissance à la loi, il n'y a personne qui a fait ça. Une personne l'a fait, et c'est Jésus. Et quand on croit en lui, on croit qu'il a payé la punition qu'on aurait dû subir, et en plus, il a accepté que lui, la vie de parfaite obéissance qu'il a fait sur la terre, elle soit mise sur notre compte. Quand on dit qu'on est justifié, c'est que Dieu nous voit comme juste. C'est comme s'il nous voyait comme on n'avait pas fait de péché. Et en plus, il nous voit comme si on avait obéi à la perfection et à la loi durant toute notre vie. Quand on comprend vraiment ça, là, quelque part les deux bras nous tombent. Et là, c'est pas terminé, c'est la dernière partie qui est la plus intéressante. Ceux qui l'ont justifié, il les a aussi glorifiés. Tous les verbes sont au passé indiquant. Parce que quand on étudie ça dans le grec, là, ils nous font voir des choses qu'on n'a pas vues à première vue. Les verbes sont au passé, ça veut dire que tu es déjà glorifié. Mais tu dis, je ne veux pas te glorifier, je suis encore sur la terre. Mais Jésus est au ciel, lui, puis on est en lui. Si on est en lui, donc à quelque part, on est déjà glorifié. C'est juste une question de temps qu'on traverse de la vie temporelle et terrestre à la vie avec lui dans le ciel. C'est-tu merveilleux? The Golden Chain of Salvation, quand on comprend ce passage-là, là, on ne peut pas faire autrement que de plier le genou et d'adorer et de voir la beauté de Dieu dans tout cela. Et versets 35 à 39, important aussi pour nous faire réaliser que Dieu nous garde. Qui est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce l'oppression ou l'angoisse? Ou la persécution, ou la famine, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Ainsi qu'il est écrit, nous sommes livrés à la mort pour l'amour de toi tous les jours, et nous sommes estimés comme des brebis destinées à la boucherie. Oui, il y a eu des chrétiens au cours de l'histoire qui ont perdu la vie, qui ont la famine, la persécution, la nudité, le péril, l'épée, ils ont connu tout ça. Mais ça ne leur a pas enlevé la vie éternelle, parce que quand tu l'as su, tu ne le perds pas. Alors, pas grave de mourir quand tu es prêt à mourir. Verset 37, ça dit, au contraire, en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu et qu'il nous a montré en Jésus-Christ notre Seigneur. Quel passage! Ça là, verset 1, 29 à 30 et 35 à 39, on devrait apprendre ça par cœur et méditer ça continuellement dans notre esprit. C'est tellement des passages profonds et qui disent beaucoup de choses très, très larges qu'on a besoin de comprendre.
1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13, concernant les tentations, bien sûr, au cours de notre vie chrétienne, on va en connaître des tentations. Le démon ne lâchera pas, le monde ne lâchera pas. Ils vont essayer de nous faire revenir dans notre vieux sentier de péché. Mais regardez ce que le Seigneur nous dit. « Aucune tentation ne vous a éprouvé qui n'ait été une tentation humaine. Et Dieu est fidèle, qui ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Mais avec la tentation, il vous en fera trouver l'issue afin que vous puissiez la soutenir. On va revenir dans Éphésiens. Éphésiens, c'est un beau chapitre aussi qui nous parle de ces choses-là. Dans le verset 4 et 5, « Selon qu'il nous avait élus en lui avant la fondation du monde, on l'a vu les semaines passées, afin que nous fussions saints et irrépréhensibles devant lui en charité, nous ayant prédestinés pour nous adopter à soi par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. » Et dans le verset 13 et 14, « En qui vous êtes aussi, ayant ouï la parole de la vérité, qui est l'évangile de notre salut, et auquel ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. » Quand on est scellé, là, c'est par Dieu lui-même. Là. C'est irréversible. C'est pour ça que la doctrine de la préservation, c'est une doctrine rassurante, une doctrine qui nous amène... Ayant été scellé du Saint-Esprit de la promesse, lequel est l'art de notre héritage jusqu'à la rédemption de la possession qu'il a acquise à la louange de sa gloire. L'art, là, on parle souvent là-dessus. C'est quoi ça, l'art? A-R-R-H-E, c'est quoi ça? Fait que si on passe dessus puis on ne s'arrête pas à réfléchir, autrement dit, c'est un avant-paiement. Il donne le Saint-Esprit parce que, éventuellement, c'est comme si Dieu dit, celui-là, il m'appartient, je vais donner l'avant-paiement en permettant que le Saint-Esprit vive en lui, et tu vas te rendre jusqu'au bout à cause de ça. Et de se rendre compte de l'importance, de la richesse, de la grâce qu'il nous fait, et du fait qu'on est habité par le Saint-Esprit, parce que c'est ça qui permet qu'on puisse lutter par le péché. On peut lutter contre le péché, l'abandonner, et tout cela. Éphésiens, chapitre 4, verset 30. « Et n'attristez point le Saint-Esprit de Dieu pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23 et 24. « Or le Dieu de paix vous veuille sanctifier entièrement et faire que votre esprit entier et l'âme et le corps soient conservés sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle. C'est pourquoi il fera ces choses en vous. » Hébreux, chapitre 10, verset 14. Dans ma version, à moi, ça dit oblation, mais une oblation, c'est une offrande. On parle de Jésus dans Hébreux, chapitre 10. Il dit, car par une seule oblation, par une seule offrande, il a consacré pour toujours ceux qui sont sanctifiés. À cause de l'offrande de son corps qui reçoit la punition à notre place, il l'a fait une fois, c'est fini après. 1 Jean, chapitre 2, versets 19 et 25. Pourquoi je vous donne celle-là? C'est parce que je vous ai dit tantôt que je ne croyais pas à l'apostasie d'un véritable chrétien. Apostasie, c'est, à mon avis, à ma compréhension des Écritures, c'est parce que tu n'avais pas été régénéré par le Saint-Esprit. Voyez-vous, ça dit, 1 Jean, chapitre 2, versets 19 et 25. « Ils sont sortis d'entre nous. » Il parle de personnes qui ont lâché l'Assemblée, qui ont lâché les chrétiens. « Ils sont sortis d'entre nous, mais ils n'étaient point des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils fussent demeurés avec nous. » Mais c'est afin qu'il fût manifesté qu'ils ne sont point des nôtres. Quand ils sortent, ça démontre, tout simplement, ça manifeste. Manifester, ça veut dire rendre visible. Ça rend visible le fait qu'ils n'étaient pas des véritables chrétiens. Et c'est ici la promesse qu'il vous a annoncée, savoir la vie éternelle. On va aller regarder 1 Jean, chapitre 5, versets 4 et 5, versets 11 à 13 et versets 20. on achève, là. Mais c'est important, c'est tous ces versets-là. Si jamais vous voulez faire une bonne étude sur la préservation, ça pour le document, il est disponible sur Internet. Vous pouvez l'imprimer et lisez-les, les versets, et non seulement lisez-les, mais étudiez-les. Comme tout à l'heure, on parlait de Romains 8, là. Si quelqu'un étudie ça, là, sa compréhension du salut, je parle d'étudier, là, aller en profondeur un peu, sa compréhension du salut va augmenter beaucoup. Voyez-vous, dans 1 Jean, chapitre 5, versets 4 et 5, ça se dit, « Par tout ce qui est né de Dieu, surmonte le monde, et ce qui vous fait remporter la victoire sur le monde, c'est votre foi. Qui est celui qui surmonte le monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? » Versets 11 à 13, et c'est ici le témoignage, savoir que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a point le Fils de Dieu n'a point la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Pas que vous aurez. Le nombre de versets qui dit ça, que afin que vous sachiez. C'est important, il faut que tu saches que tu as la vie éternelle et afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu. Or, nous savons, le verset 20, « Or, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable, savoir en son Fils Jésus-Christ. Il est le vrai Dieu et la vie éternelle. » Tellement des beaux passages. Et on termine par Jude, les versets 1 et versets 24 et 25, ça va être nos derniers versets qui parlent de préservation. La semaine prochaine, on va regarder l'autre côté, qui est la persévérance des saints. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés par l'Évangile, sanctifiés en Dieu le Père et conservés par Jésus-Christ. On est-tu bien conservé? La personne qui nous conserve a-t-il la puissance pour nous garder? Je crois pas. Verset 24. Or, à celui qui est puissant pour vous garder, sans que vous fassiez aucune chute et vous présenter irrépréhensible devant sa gloire avec joie, à Dieu, seul sage, notre Sauveur, soit gloire et magnificence, force et empire, dès maintenant et dans tous les siècles. Amen. Verset 24, puissant pour vous garder. Gardons ça à l'esprit. Dieu s'occupe de nous. Il va faire en sorte que c'est sa part. Il va nous rendre jusqu'au bout. Mais la semaine prochaine, on va se faire rappeler nos responsabilités. Il faut travailler à notre salut avec crainte et tremblement. On ne peut pas juste prendre cette partie-là et se fier là-dessus, parce que là, ça peut nous faire faire des erreurs monumentales. Alors, si vous voulez, on va prier. Notre Dieu nous a appris aujourd'hui ta part dans notre salut. Et c'est quelque chose qui est tellement rassurant. De savoir que nous sommes gardés par ta puissance qui est infinie. Et on sait que ce que tu as commencé, tu vas le terminer. Parce que tu es un Dieu, comme tu dis dans les Écritures, tu es fidèle. On te remercie pour tout cela, Seigneur. On te prie de nous faire comprendre cela avec intelligence, avec sagesse aussi, de manière à garder cette doctrine en équilibre avec celle de la persévérance des saints, Seigneur, afin que nous ne fassions pas des erreurs grave dans la compréhension et dans notre marche chrétienne de tous les jours. On te demande de nous bénir et de permettre que notre compréhension du salut augmente de jour en jour, de manière à ce que nous l'apprécions davantage et que nous nous comportions aussi en conséquence de ce que nous savons. Nous te le demandons en Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen.